France Inter.
Bonjour, ici Eva Bester. Dernier épisode consacré aux virtuoses de la musique classique avec le chef d'orchestre et directeur musical de l'ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon, pour parler du spectacle L'Autre Voyage sur une mise en scène de Sylvia Costa. Les virtuoses du classique, épisode 4, Raphaël Pichon. Chef d'orchestre spécialisé dans le répertoire baroque, directeur musical de l'ensemble Pygmalion, chœur et orchestre depuis 2006 et directeur artistique du festival Pulsation à Bordeaux, Raphaël Pichon dirigeait récemment le spectacle musical L'Autre Voyage, mis en scène par Sylvia Costa à l'Opéra Comique. Fresque romantique et accompagnée par une très belle orchestration de partitions oubliées de Franz Schubert mélangée à d'autres compositions du maître autrichien, L'Autre Voyage aborde les questions existentielles principales, la vie, la mort, la douleur, l'absence, la mémoire, l'espoir. Pendant que l'orchestre est guidé par les mains gracieuses et virevoltantes du chef d'orchestre gaucher, des acteurs s'épouvantent sur scène de morts précoces, inattendues et trop visibles. Une femme au rouet coupe un fil rouge comme une parque, la mort sera justement le fil rouge de toutes les scènes, dès la seconde dans laquelle un médecin s'aperçoit avec effroi que le corps qu'il doit autopsier est le sien. Enfin, c'est peut-être pire. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal. Eva Bester.
Bonsoir Raphaël Pichon.
Bonsoir Eva Bester.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Alors je crois qu'aujourd'hui j'ai, pour la première fois depuis de longues semaines, retrouvé un peu de place pour le futur. Parce que, quand on est dans un tel spectacle, qui ici s'apparente presque à une sorte de création, eh bien on ferme les écoutilles, on est totalement plongé, corps et âme, pétri de doutes, de moments libérateurs, de moments de grande tension. Et des moments très précieux, je trouve, dans la vie d'un artiste, c'est ce moment où vous terminez un projet, où vous êtes en phase de le terminer, et de nouvelles intuitions naissent, pétries des enseignements peut-être du projet en cours, ou de leçons tirées, et de nouvelles envies, de nouvelles intuitions, qui pose un peu la question, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va se situer après ce projet-là, où est la suite, où sont les nouveaux territoires à explorer. Donc voilà, je crois, aujourd'hui c'était pour la première fois, il nous restera deux représentations. Eh bien, j'ai retrouvé un peu de la place pour le futur.
Vous doutez beaucoup ?
Oui, bien sûr. Je crois que c'est peut-être le plus grand moteur de l'inspiration, si l'on peut dire. Même si je ne suis qu'un interprète, mais en étant à l'origine, j'ai cette chance d'être le plus souvent à l'origine des projets, et donc d'être dans cette quête de l'intuition d'une œuvre, d'une équipe, d'un regard porté sur cette œuvre, parfois avec l'envie de bousculer aussi un peu les choses, que ce soit sur le fond, même parfois aussi sur la forme, dans la manière de se présenter devant un public. Et ces quêtes-là, ces recherches-là, elles créent inévitablement du doute. Et là, je dirais qu'avec ce projet Schubert, peut-être encore plus que d'habitude, par la singularité de ce projet.
On va en parler, mais avant cela, Raphaël Pichon, vous êtes l'un des rares chefs d'orchestre gauchers. À l'une de vos premières auditions, vous avez dit que vous ne pourriez jamais faire de carrière en dirigeant du bras gauche. Qu'est-ce que ça change ? Je crois que vous dirigez aussi sans baguette.
Oui, alors, tout ça est un peu du domaine de la légende, dans le sens, je parle la question des gauchers en règle générale. C'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que les canons de la direction d'orchestre depuis qu'elle existe, c'est-à-dire à peu près depuis le début du 19e siècle, ont installé l'idée qu'il fallait diriger avec la main droite. Ça ne veut pas dire ne pas être gaucher, pour une raison très simple. Regardez, si vous regardez un orchestre de face, eh bien, sur la gauche, vous avez les violons qui tiennent la partie la plus aiguë. Et donc, souvent, celles qui tiennent la mélodie. Et donc, la mélodie, elle chante. Et donc, avec votre main gauche, vous êtes normalement, cette main gauche vient porter, aider, soutenir, modeler cette mélodie. Tandis que celle de la baguette, qui donc devait se tenir dans la main droite, eh bien, on est plus dans le moteur, c'est-à-dire les voix les plus graves, donc par exemple les violoncelles, les contrebasses, les timbales. Et donc, on est dans le côté plus rythmique de la machine orchestre. Et donc, il y a une certaine forme de logique dans cette approche entre gaucher et droitier, même si, finalement, l'essentiel n'est pas là. Et effectivement, moi, je dirige sans baguette, parce que je viens de la direction chorale. J'ai beaucoup travaillé avec des voix. Et les voix, et je crois que c'est une matière qui se travaille à main nue. Alors voilà, maintenant, je me sens plus à l'aise comme cela.
Raphaël Pichon, avec votre chœur et orchestre sur instruments d'époque fondé en 2006, l'ensemble Pygmalion, vous avez fait entendre 3 concerts cet automne en tournée, le Requiem de Mozart, les cantates de Bach et Elias de Mendelssohn. Vous explorez aussi les filiations qui relient Schutz à Brahms ou encore Rameau à Gluck et Berlioz. Tout à l'heure, on va parler de votre spectacle consacré à Schubert, mais je voulais vous demander, est-ce que le fait de changer régulièrement d'époque vous fait vous rendre compte de certaines modes par période et pays, comme on pourrait dégager des tendances de musique actuelles? Vous pourrez vous dire par exemple, ah ça c'est Weber, ah ça c'est du Brahms.
Bien sûr, je trouve que c'est formidable. Vous savez, la musique classique vit une période particulière de son histoire, tout simplement parce qu'elle faisait partie d'un certain quotidien des peuples et des sociétés depuis qu'elle existe, on va dire depuis François Ier, quelque chose comme ça. Et puis cette musique classique, elle s'est organisée, elle a gagné aussi en popularité à une certaine époque, avec l'ouverture des théâtres populaires, je parle des maisons d'opéra. Et puis ensuite, elle a su ouvrir énormément de pans très très différents, des musiques les plus légères aux musiques les plus graves. Eh bien, aujourd'hui, tout est différent, tout simplement parce que la part de création dans la musique classique a tellement réduit, j'entends par là que aujourd'hui la priorité, si je puis dire, enfin la priorité, ce qui occupe la majorité du paysage musical classique mondial, c'est le patrimoine. C'est donc de chercher à faire naître un nouveau regard sur un patrimoine achevé parfois depuis des décennies ou même des centaines d'années. Et donc effectivement, bien sûr, se dégagent des moments où par effet boule de neige, telle époque, tel compositeur va retrouver une faveur, et peut-être aussi tout simplement parce que telle époque ou telle forme ou tel genre ou tel compositeur a à ce moment-là plus à nous quelque chose à nous dire de plus direct, de plus, qui fait mouche, si je puis dire.
Lorsque j'ai débuté, j'avais 24 ans et j'avais, disons quand même une claire vision de ce que mon métier, car c'est un métier, qui est un artisanat, devait être. J'ai fait les études que l'on fait pour ça, et puis, vous savez, un maître de chapelle qui a été celui du Sacré-Cœur dans le milieu du XXe, qui était Henri Potiron, disait « il y a les sources et les robinets ». Cette formule que je trouve un peu triviale, mais en même temps très juste, fait que on prend la mesure de ce qu'on représente dans la chaîne des générations. Mozart est une source, Bach est une source, Monteverdi est une source, Lully ou Charpentier sont des sources. Et lorsqu'on écrit, on écrit pour la liturgie. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Et donc, ça a été le point de départ.
Raphaël Pichon, on entend la voix de Jean-François Frémont en 2014, le maître de chapelle des petits chanteurs de Versailles, soit votre premier professeur de chant, discipline après laquelle vous avez étudié le violon et le piano et à laquelle vous êtes revenu au conservatoire. Je crois que le violon fut éprouvant pour vous, contrairement au chant. Vous avez été contre-ténor.
Oui, alors effectivement, on entendait la voix de Jean-François Frémont, qui fut bien plus qu'un professeur de chant, qui fut celui par lequel ma vie a basculé. Je ne viens pas d'une famille d'artistes, mais j'ai vraiment la chance de venir d'une famille très aimante, et puis de parents qui m'ont absolument encouragé à m'engager dans cette voie qui était totalement inédite pour eux, parce qu'on n'est pas vraiment d'artistes dans la famille, et qui ont été absolument avec moi dans tout ce parcours. Et effectivement, un peu par différents jeux de coïncidences, de belles coïncidences, j'ai pu commencer la musique quand j'étais tout jeune. Mais ma première expérience avec la musique a été assez anonyme, à travers le violon. Et là aussi, par tout un jeu de hasard, j'ai fini par entrer dans cette maîtrise à Versailles de cette maîtrise d'enfant, ce chœur d'enfant. Et là, le choc a été extrêmement, j'oserais presque dire violent, une expérience sensible, extraordinaire, et qui a ensuite voilà, changé, bouleversé ma vie. Puisque la musique, voilà, finalement, c'est pas un métier, c'est une formule célèbre, mais c'est pas un métier que l'on choisit, c'est lui qui vous choisit. Et ce qui a été vraiment mon cas, et ce qui ensuite m'a donné envie de, à démultiplier ma curiosité, une boulimie de, une vraie boulimie, et donc m'a donné envie de passer à travers différents instruments et le chant, avec cette idée que le chant serait mon école à moi. Pour peut-être un jour passer de l'autre côté du miroir.
Raphaël Pichon, j'ai appris en préparant l'émission grâce à vous que la musique baroque avait été conçue pour être jouée sans chef. Et donc, il était impossible d'apprendre à diriger la musique baroque avec des modèles de jadis. Je voulais vous demander comment avez-vous appris et les gestes du chef d'orchestre. C'est une question que je me pose depuis toujours. Est-ce que vous les imitez d'autres chefs? Est-ce qu'ils sont codifiés ou est-ce qu'ils sont arbitraires?
Alors, c'est une question qui revient souvent, on me la pose encore beaucoup. Premièrement, moi, effectivement, je suis, peut-être que j'exagère en disant que je suis un autodidacte, parce que j'ai eu la chance de croiser dans mon parcours différentes personnes, même des professeurs qui m'ont guidé, ou en tout cas qui m'ont apporté un certain nombre d'outils et de choses. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait d'études à proprement parler. Il existe toujours en France, notamment au Conservatoire de Paris, dans d'autres conservatoires, des classes de direction d'orchestre où on apprend vraiment la technique de la direction d'orchestre et qui vous prépare à être capable d'affronter le fait d'être sur un podium face à des musiciens, qui est bien sûr un métier qui demande qui fait appel à des ressources qui dépassent bien largement la question de la technique. Mais la technique, oui, elle est codifiée. Il y a un langage, si j'étais un peu trivial, je dirais une sorte de code de la route, de savoir que le bras en bas, c'est le premier temps, à droite, c'est le deuxième temps, à gauche, c'est le troisième, et ainsi de suite, avec énormément de finesse à l'intérieur de tout ça, en fonction un tout petit peu des langages et des vocabulaires que vous abordez. Mais l'essentiel est ailleurs. Ce sont des choses entre guillemets assez simples, par contre, elles sont finalement très difficiles à réussir à absorber, à assimiler totalement pour qu'elles fassent partie de vous et qu'elles ne soient plus que peut-être quelque chose de très sommaire, puisque l'essentiel est ailleurs. Quand je dis que l'essentiel est ailleurs, c'est ce que vous allez dégager, ce que vous allez être capable d'initier comme dialogue avec vos musiciens, tout ce qui est de l'ordre du sensible, tout ce qui va faire qu'une interprétation est capable de vous saisir, ou alors de vous laisser un peu sur le bas-côté sans intérêt.
Ah bon, en tout cas, quand on vous regarde diriger, Raphaël Pichon, on sent que vous êtes habité et pénétré par la musique à chaque seconde, et c'est très gracieux. Raphaël Pichon, on entend un extrait de votre album de 2022, Mein Traum, Schubert, Schumann, Weber, Lazarus, D689, acte 2, récitativo et aria, Wo bin ich, o könnt ich, avec le baryton, Stéphane Degout qui est sur scène, dans L'Autre Voyage. J'ai choisi de passer ça puisque c'est l'album qui est à l'origine du spectacle musical L'Autre Voyage.
Oui, Schubert est un compositeur qui m'avait accompagné quand j'étais adolescent. J'en écoutais beaucoup à la maison. J'ai toujours trouvé que c'était un compositeur, le compositeur des échappatoires, celui qui vous oblige à vous échapper. On rentre un peu dans le monde du rêve, dans le monde du songe. Et depuis pas mal d'années maintenant, j'avais envie que nous consacrions du temps avec Pygmalion, donc avec mon chœur et mon orchestre, à ce compositeur.
Et pas de la mélancolie, parce que j'ai déjà lu une interview de vous où vous disiez qu'il invitait à la rêverie, justement, et ce que vous venez de dire. Mais c'est aussi un grand compositeur de la mélancolie, Schubert.
Absolument. C'est même peut-être ce qui le définit le mieux. Et c'est vrai que ça fait maintenant 20 ans que cette aventure Pygmalion, ce chœur et cet orchestre existent, bientôt 20 ans, en 2026. Et on a d'abord abordé le répertoire essentiellement de manière, je dirais, chronologique, c'est-à-dire remonter peut-être aux racines de ces répertoires à travers la musique baroque, se créer des outils, comprendre, prendre le temps de la compréhension, prendre le temps de l'intimité. Et tout cela nous amenait en fait finalement assez naturellement à Schubert. Et moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est d'aborder un compositeur à travers ce que j'appelle les couloirs de leurs œuvres. C'est-à-dire tous ces endroits où peut-être restent des œuvres beaucoup plus méconnues, mais qui peut-être sont une carte d'identité, une définition extraordinaire d'un compositeur, et d'essayer d'assembler peut-être différentes pièces qui traînent ici dans ces couloirs et qui pourraient peut-être créer une mosaïque, une fresque, un récit intéressant pour aborder pour la première fois un compositeur. Et c'est ce qu'on en a fait pour cet album Mein Traum, qui ensuite a donné naissance à l'expérience maintenant vraiment scénique et visuelle de cet autre voyage.
Alors avant d'arriver dans ce couloir, soyons, si vous le permettez, Raphaël Pichon, dans le vestibule. Mein Traum, mon rêve, c'est le nom donné au texte de Schubert révélé par son frère Ferdinand, un récit qui s'apparente à la transcription d'un songe qui a été écrit par Schubert le 3 juillet 1822. Et est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en lire un extrait de votre choix ?
Avec plaisir. J'étais le frère de nombreux frères et sœurs. Mon père et ma mère étaient bons. Un profond amour m'attachait à tous. Père nous conduisit un jour dans un jardin de délices. Mes frères s'en trouvaient tout joyeux, mais moi, j'étais triste. Mon père s'approcha de moi et m'intima l'ordre de me régaler des succulentes nourritures. Cela m'était impossible. Voyant cela, mon père, en colère, me chassa de sa vue. Je tournais les talons et, le cœur empli d'un amour infini pour ceux qui le dédaignaient, je parcourus à pied une contrée lointaine. Des années durant, je me sentis déchiré entre la plus vive douleur et l'amour le plus vif. Alors me parvint la nouvelle du décès de ma mère. Je m'empressai pour la voir, et mon père, attendri par la douleur, ne m'empêcha point d'entrer. Je découvris sa dépouille. Les larmes coulèrent de mes yeux. Comme au bon vieux temps, en mémoire duquel, selon les dires mêmes de la défunte, nous allions désormais devoir évoluer, ainsi qu'elle l'avait fait jadis, je la vis étendue. Nous suivîmes le cortège en versant bien des larmes, et son cercueil fut englouti par la terre. À partir de ce moment, je repris ma place à la maison. C'est alors que mon père m'amena de nouveau dans son jardin favori. Il me demanda si celui m'agréait. Mais je ne ressentais que de l'antipathie pour ce jardin, aveu que je n'osais lui faire. Il me demanda une seconde fois, dans une croissante irritation, si le lieu me plaisait. En tremblant, je lui fis signe que non. Alors mon père me battit, sur quoi je pris la fuite.
Merci beaucoup Raphaël Pichon. Il y a eu la découverte de ce texte et aussi le choc que vous avez ressenti quand vous avez su, justement, vous parliez de couloir tout à l'heure, quand vous avez connu le nombre de partitions oubliées de Schubert. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse du spectacle, du travail qui a été fait autour des partitions et du spectacle ?
Un constat très simple. Schubert est un compositeur encore extraordinairement populaire aujourd'hui, sa musique de piano, encore retravaillé par tant d'artistes aujourd'hui, sa musique de chambre, ses fameux leaders qui sont ses chansons pour voix et piano. Et pourtant, près d'un tiers de sa production artistique, sa production musicale, près d'un tiers nous est totalement caché, si je puis dire, à savoir ses opéras. Donc il a mis en chantier près de 15 opéras, donc c'est presque autant que Mozart, pour se rendre compte.
Et pourquoi, à votre avis, n'a-t-il jamais achevé un opéra ?
Parce que Schubert est une personnalité, alors il y en a d'autres, mais est une personnalité un petit peu à part, avec cette idée que l'inachèvement le définit. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal à terminer un certain nombre d'œuvres, qui ne sont pas d'ailleurs liées qu'à l'opéra. Mais l'opéra en est peut-être le genre le plus touché. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personnalité dont on sait que c'était quelqu'un d'assez discret, d'assez timide, qui voilà ce genre de personnalité qui peut-être rêvent de lumière, mais ont du mal à accepter d'y apparaître. Et donc, pour un compositeur de cette époque-là, on est à Vienne, en Autriche, dans les années 1815-1820, et pour exister, le meilleur médium, c'est celui de l'opéra. Un compositeur très célèbre, qui est Rossini, était celui qui brillait à cette époque-là sur les scènes de l'opéra de Vienne. Et moi, je crois que on était dans une époque tournée essentiellement vers le divertissement, avec des histoires parfois très triviales, et que peut-être ce qui définissait ce Schubert mélancolique, capable d'ouvrir de véritables abysses par sa musique, et de creuser extrêmement profond, et de toucher peut-être à des choses d'une intimité et d'une densité extraordinaire, eh bien, voilà, la scène de l'opéra de Vienne n'était pas capable de lui offrir, d'où cette idée d'inventer l'écrin, lui capable peut-être de nous révéler un peu cette musique oubliée.
Raphaël Pichon, nous évoquons le spectacle lyrique que vous dirigez en ce moment à l'Opéra Comique, L'Autre Voyage, sur des compositions de Schubert. Je crois qu'il y a eu un travail en amont pour la création de ce spectacle, notamment avec Robert Percival pour les arrangements, les orchestrations. Et j'aimerais que vous nous disiez un mot du travail de la metteuse en scène Sylvia Costa, qui a bâti, je crois, le récit et qui contraste énormément, puisque on entend du Schubert, mais on voit des scènes, des tableaux très modernes, très contemporains. Par exemple, à un moment, on voit des policiers autour d'un cadavre, et ils pourraient être issus d'une série criminelle en combinaison.
Absolument. Sylvia Costa fait partie de ces artistes qui développent ce que j'appellerais une sorte de théâtre symbolique et poétique d'image, un théâtre d'image, un travail, je crois, qui cherche la collision, qui cherche, j'oserais presque dire, un peu la réaction chimique entre la musique que vous entendez et ce qui va se déployer sur scène. Quelque part que l'image, donc autrement dit, peu de considération donnée à la narration, mais beaucoup plus à ce qu'est capable de déclencher la scène en complicité avec la musique. Et peut-être nous inviter à nous abandonner à elle, à l'écouter d'une manière différente, à l'écouter peut-être plus en profondeur. C'est comme, vous savez, en chimie, l'idée du révélateur. Un théâtre un peu de la révélation. Et je crois que c'est pour cela que l'envie et l'intuition de me tourner vers Sylvia Costa a été très vite une forme d'évidence pour moi, pour cette musique qui est d'une fragilité extraordinaire. Je trouve que Schubert a peut-être écrit la musique la plus fragile qui soit. Et cette fragilité, elle nous oblige en tant que musiciens, parce qu'elle nous emmène presque au bord du précipice parfois. Je vous donne un exemple tout simple. Accepter parfois de jouer à des nuances qui sont à peine perceptibles. Schubert insistait souvent sur des pianos, pianississimo, trois pianos, quatre pianos. Et donc cela vous oblige. Et en plus, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que voilà des nuances, voilà des risques qui sont très anti-opératiques. L'opéra est souvent parfois dans la démonstration et dans le grandiloquent, pas toujours bien sûr, mais en tout cas avec l'idée d'une masse sonore. Et là, on est exactement à l'opposé de tout cela, et je trouvais ça passionnant de se livrer à une telle expérience.
Et justement, ce contraste que vous soulevez, cette subtilité, ce révélateur, fonctionne d'autant bien qu'on voit donc de façon surtitrée, on voit la traduction des chants en anglais et en français. Et j'aimerais, Raphaël Pichon, que vous nous parliez justement de ces textes. Il y a une scène où le baryton Stéphane Degout incarne un médecin qui reçoit un corps à autopsier. Il pense qu'il s'agit de son double. Et je crois qu'il y a un texte qui s'appelle Der Doppelganger de Heinrich Heine. Comment avez-vous utilisé les textes et quels sont-ils ?
Alors, effectivement, dans ce spectacle, il y a deux sources très contrastées, très différentes. Il y a d'abord les textes poétiques, c'est-à-dire les textes, vous parliez de Heinrich Heine, il y en a d'autres de Schiller, de Goethe. Tous les textes poétiques ont été absolument conservés, et d'ailleurs sont peut-être les quelques climax, un peu les différents moments clés de ce spectacle. Et ces poèmes nous offrent énormément d'espace, parce qu'ils sont non narratifs et parce qu'ils sont dans l'évocation, ils sont dans la création d'un sentiment ou d'une atmosphère ou d'un ressenti. Alors que tous les extraits d'opéra de Schubert que j'ai sélectionnés, eh bien nous nous sommes autorisés à en modifier le texte et à essayer que ces moments d'opéra servent à créer le fil rouge et à créer l'arc et à créer ce léger tissu narratif qui puisse nous emmener du début jusqu'à la fin du spectacle.
Comme si vous aviez fait vous-même le livret finalement.
Bien sûr, parce que par essence, puisque nous allions chercher dans énormément de sources différentes, puisque dans ce spectacle il y a des extraits d'opéra, dont la plupart sont absolument oubliés, certains leaders orchestrés, donc ces fameux chants qui normalement sont pour piano et voix, et qu'ici sont dans une version avec orchestre et voix. Il y a aussi des extraits de toute la littérature a cappella, c'est-à-dire la littérature chorale de Schubert. Il y a aussi un canon, il y a aussi des moments avec du piano, il y a aussi des moments enregistrés. Donc toutes ces sources sont tellement variées qu'évidemment il était impossible de faire tenir une vraie narration. D'où cette idée d'intervention sur les textes.
Raphaël Pichon, on entend l'introduction de l'acte 2 d'Alfonso et Estrella, opéra romantique en trois actes de Schubert, que vous dirigez aussi dans L'autre voyage. Quel est le sujet ? Là, il s'agit de Merveilleux, que Schubert affectionnait.
Le sujet d'Alfonso et Estrella ? Vous savez, à cette époque-là, il y a une affection assez particulière pour le roman gothique, ce qu'on appelait aussi parfois roman noir. Donc on est dans des histoires de chevaliers avec des histoires de trahison et évidemment souvent la progéniture des hommes et des femmes de pouvoir qui évidemment sont des familles ennemies et finissent par tomber amoureux les uns aux autres et donc créant tout un tas de situations idéales pour des histoires très propres à l'opéra de cette époque-là et donc nous naturellement c'était évident que ces histoires-là n'étaient pas celles qui nous intéressaient. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces nombreux opéras que Schubert a écrits, en tout cas moi c'est mon ressenti, eh bien dès qu'il suit la narration, dès qu'il suit le livret qui lui a été proposé, la musique est assez convenue. Et surtout elle paraît beaucoup plus faible que la musique que Schubert écrit par ailleurs, pour le piano, pour la musique de chambre. Et parfois, des moments de fulgurance extraordinaire, des vrais météores, des moments d'une musique d'une densité et d'une qualité extraordinaire avec des atmosphères créées fabuleuses. Et c'est ce que j'appelle un peu des bulles, ces moments où en fait Schubert s'autorise lui-même à s'échapper, comme s'il était ligoté dans ce monde de l'opéra qui semble n'avoir pas grand-chose à lui offrir, eh bien il s'en échappe, et alors là, de vraies épiphanies, et tout un Schubert absolument fascinant qu'on ne connaît pas par ailleurs.
C'est amusant que vous ayez soulevé le mot gothique, puisque justement, Sylvia Costa, la metteuse en scène, a dit qu'elle voulait nuancer l'image convenue d'un Schubert romantique et mélancolique et creuser le côté gothique et noir, ce qu'on voit bien sur scène. Raphaël Pichon, à l'Opéra Comique, vous avez dirigé plusieurs œuvres comme Orphée, Eurydice, Fidelio ou Lacmé. Alors une question prosaïque, voyez-vous la scène de la fosse ?
Oui, bien sûr, c'est indispensable pour un chef d'orchestre.
D'accord, je me demandais.
Bien sûr, il faut la voir. Alors, c'est une position assez étrange parce qu'évidemment, on a un ressenti qui n'est pas très juste sur ce qu'on appelle les balances. C'est-à-dire que ce que va percevoir l'auditeur dans la salle, nous, l'image sonore que l'on a à notre place est assez faussée. Donc, c'est un travail qu'il faut faire souvent vraiment en amont avec des personnes dont c'est le travail de vous dire est-ce qu'on est trop fort, est-ce qu'on n'est pas assez fort, et par contre c'est indispensable, et puis c'est ça aussi qui fait la magie de ce métier, c'est d'être en capacité de réagir à tout ce qui peut se passer sur scène. Il y a beaucoup d'aléas dans une production d'opéra, bien plus que pendant le concert, qui sont liés au jeu des acteurs, à tout ce qui se déplace, à tout ce qui vit sur scène, et donc cette interaction entre scène et musique, moi c'est quelque chose, c'est un exercice qui me passionne absolument.
Est-ce que vous êtes ému par ce qu'il se passe lorsque vous dirigez, ou êtes-vous trop concentré ?
C'est toujours au moment où vous ne l'attendez pas que vous pouvez être ému par quelque chose qui se passe devant vous. Parce que quand vous êtes dans une fosse d'opéra, vous êtes vraiment ce qu'on appelle un accompagnateur. Vous êtes au service de la scène. Parfois, il faut insuffler peut-être ici énergie ou au contraire retenue, mais malgré tout, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour créer les meilleures conditions pour que les artistes qui soient en scène puissent avoir à dire ce qu'ils ont à dire. Donc, vous êtes absolument au cœur du jeu, mais vous êtes en même temps un tout petit peu dans cette position de retrait, donc qui vous permet parfois, oui, d'avoir de grandes émotions, bien sûr, ou alors de grands moments de trac, ou des... On passe, c'est un kaléidoscope d'émotions assez inédit et inouï, l'opéra.
Vous avez déjà pleuré en dirigeant ?
Non.
Non. Ça parle de la mort, l'autre voyage,
oui.
Beaucoup. Quel est votre rapport à la mort et à l'inachèvement, Raphaël Pichon ? Est-ce que vous avez beaucoup d'œuvres en chantier ? Et est-ce que vous dire que, après votre disparition, pour écouter vos albums, ça a quelque chose de consolatoire ?
Oh, j'en suis pas encore arrivé à ces questions-là. Mais la vérité, c'est que je crois que, en tout cas, l'inachèvement, la disparition... C'est rigolo que vous abordiez ce sujet parce que je me faisais la réflexion que peut-être depuis 10 ans maintenant, nombre des projets à la scène sont tournés vers ces questions. Cette question, ces questions. Alors il est peut-être temps que je commence une psychanalyse et que j'ouvre un nouveau chapitre. Puisque je disais qu'on allait bientôt fêter nos 20 ans, on verra de quoi les 20 prochaines années. Mais c'est vrai qu'en ce moment... Je peux vous, sans révéler quoi que ce soit de secret, vous révéler que je suis sur un projet d'opéra contemporain qui sera une grande farce, sarcastique, corrosive, et que j'espère même assez loufoque. Voilà, on verra.
Rosamonde, princesse de Chypre, de Schubert, le mouvement Romanza par la cantatrice allemande Christa Ludwig et l'américain Irwin Gage au piano. Un morceau aussi joué dans le spectacle que vous dirigez, L'autre voyage. Raphaël Pichon, pouvez-vous nous dire un mot sur ce morceau pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne l'ont jamais entendu?
Je crois que ça fait partie de ces, justement, on parlait tout à l'heure de météores, de fulgurances. Rosamund est une musique de scène, c'est-à-dire là on n'est pas à l'opéra, on est au théâtre, et à cette époque-là on aimait beaucoup demander à des compositeurs d'écrire des intermèdes musicaux. Et dans ces Rosamund est une partition absolument incroyable, mais ce sont juste quelques numéros épars qui ont donc vocation à rythmer une pièce de théâtre. Et au milieu de cette pièce, il y a cette romance magnifique, et un roi et une reine sentent qu'ils vont être poussés vers l'exil, et pour éviter de faire prendre le risque de mourir à leur jeune fille, ils font partir cette jeune fille sur une île où elle va être recueillie par de simples bergers. Et quand elle a 18 ans, cette princesse donc va revenir conquérir sa couronne sur l'île principale. Et là, on entend cette femme qui a éduqué, élevé cet enfant, et qui repense à tous ces moments qui n'auront plus jamais lieu d'être, mais qui ont été une telle intensité dans sa vie, et qui ont été peut-être, oui, l'essence même de sa vie. C'est entre lumière, c'est toujours pareil avec Schubert, on est entre cette mélancolie dont vous parliez tout à l'heure, et cette lumière, parfois un peu blafarde, mais en même temps extraordinairement scintillante.
C'est votre choix musical qu'on entend Raphaël Pichon, Rameau, Les Boréades, acte 4, scène 4, Entrée de Polymnie, sur votre disque Enfer avec l'ensemble Pygmalion et Stéphane Degout, sorti en 2018.
Ah, je crois que c'est l'une de mes pièces, la fameuse pièce Île déserte. Ça, c'est...
C'est-à-dire ce que vous emmèneriez si
bien
vous
sûr.
Deviez choisir un petit panthéon d'œuvres.
Bien sûr. Rameau est l'un de nos plus grands compositeurs, compositeur français du XVIIIe siècle. Et voilà, je trouve que c'est une musique d'une grâce, d'une profondeur, d'une vérité bouleversante. Et en plus aussi avec cette couleur un peu particulière que vous pouvez entendre, la cacher derrière les violons, qui est la couleur du basson, l'un des plus beaux instruments qui soit, un instrument très français d'ailleurs, et que Rameau a absolument magnifié. Mais je crois que le principal, c'est la beauté pure, extraordinaire qu'est capable de dégager ces quelques minutes de musique.
Et c'est vrai qu'on parle très peu du basson. Votre compagne, Raphaël Pichon, la soprano Sabine de Vielle, chante Voraius Piegarvi Odio, K418 sur votre disque Mozart, The Weber Sisters, R pour soprano et orchestre écrit par Mozart pour Aloysia Weber, pour l'opéra Il Curioso Indiscreto de Pasquale Anfossi. Qui sont les sœurs Weber?
Ah, c'est une histoire. C'est une histoire assez fascinante. Mozart s'est entiché d'une première sœur, qui lui a refusé son amour, a ensuite écrit notamment le fameux air de la Reine de la Nuit pour la grande sœur, pour ensuite finalement épouser la petite dernière, la célèbre Constance Weber. Et donc c'est effectivement une histoire que nous voulions raconter en musique avec Sabine de Vielle il y a quelques années à l'occasion d'un album qui reste un moment important pour moi. D'abord de faire de la musique à deux, de faire de la musique ensemble avec Sabine, c'est toujours une expérience particulière. Et puis aussi, c'était nos débuts avec Mozart. Et là, c'est un vrai vertige, en fait, d'aborder Mozart pour la première fois de sa vie. C'est absolument vertigineux.
Et alors, qu'est-ce qu'elle explique à Dieu? J'aimerais vous expliquer, oh mon Dieu.
Ah oui, non, elle explique rien à Dieu ici. Elle sait qu'elle est condamnée, voilà, une femme qui aime un homme et cet homme n'est pas libre. Et en fait, elle sait qu'elle est condamnée à disparaître de sa vie. Donc, ce sont des adieux teintés de regrets. C'est aussi un secret inavouable. C'est pour ça qu'on est dans ce sorte de cocon extraordinaire avec ces fameux pizzicati des violons. Et puis, on pourrait dire que l'ombre de cet homme plane à travers la voix du hautbois qui dialogue avec la voix de soprano.
Raphaël Pichon, je vous ai demandé de choisir une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi Sirocco et le royaume des courants d'air, réalisé par Benoît Chieux.
Oui, ça a été une très très belle découverte de ces dernières semaines.
Un long métrage d'animation.
Exactement, un film d'animation. C'est un conte, un très beau conte qui raconte l'histoire de deux jeunes sœurs qui découvrent un passage secret pour rentrer dans leur livre préféré. Et il y a là... quelque chose de Claude Ponty, il y a là quelque chose de Miyazaki.
Pas mal.
J'ai été assez bouleversé. J'étais avec mes enfants et j'étais assez bouleversé par ce conte qui, moi, m'a ramené à la découverte tout jeune du Roi et l'Oiseau, le fameux Roi et l'Oiseau de Grimaud et Prévert. Et j'ai trouvé ici aussi une grâce extraordinaire et puis une capacité à aborder des sujets durs. On parle ici de la perte, de la disparition, on parle du pouvoir, on parle du sacrifice, à travers une histoire merveilleuse, étrange parfois, avec aussi une très belle musique. J'ai été vraiment saisi, je recommande très vivement d'emmener vos enfants jusqu'à 99 ans voir ce très très beau film d'animation.
De vieux enfants, 99 ouais. ans. Raphaël Pichon, on entend La Passion selon saint Matthieu de Bach que vous avez dirigé avec l'ensemble Pygmalion et la maîtrise de Radio France. J'ai lu dans une interview que votre vœu post-mortem, c'était de vous balader dans les couloirs du temps et d'assister à la création de la première Passion selon saint Matthieu de Bach. C'est toujours le cas ?
Ah oui, ça, alors j'espère de tout cœur qu'on a une carte illimitée pour voyager dans les couloirs du temps. Mais c'est vrai que la création d'une passion serait... j'en aurais beaucoup d'autres, la liste serait très très longue. Mais celle-là serait peut-être dans un des top 3, pour sûr.
Merci beaucoup,
merci
Raphaël
à vous.
Pichon.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Estelle Gap, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Adèle Caglar. Retrouvez tous les épisodes de notre série consacrée aux virtuoses de la musique classique sur le site de l'émission, émission à laquelle vous pouvez évidemment vous abonner.